au Delicious Show, un podcast chaud de variété, et je suis votre animateur, David Paré. Et nous allons parler de croissance personnelle, entrepreneuriat, relations interpersonnelles et plein d'autres belles choses croustillantes. Et bien sûr, ce soir, je reçois un invité Delicious. Et je vous demande d'accueillir le super Stevie Turmel. Yeah! Bienvenue à bord, welcome aboard. Ça merci. Mérite un chin.
Cheers, merci.
Hey, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici parce que on s'est connus là, une vingtaine d'années des poussières. On a étudié ensemble en un scoop pour les gens. On étudiait ensemble en communication au Conservatoire La Salle.
Exact.
Puis, écoute, je pars là-dessus, là, mais... ah non, c'est vrai, avant de partir là-dessus, on a trois thèmes aujourd'hui. Le LGBTQ+,
oui.
L'univers télévisuel et on va parler aussi de séries web. Je vais y revenir tantôt au punch que je voulais dire. On va rentrer tout de suite dans...
Vas-y.
On y va. Je vais rentrer dans le LGBTQ+. Tu avais des affaires à dire là-dessus? Ouais, on y va.
Il y a beaucoup de lettres, mais
ouais,
LGBTQ+.
Je trouve ça intriguant que tu... Tu sais, on a jasé avant l'émission, tu disais, hein, on pourrait parler de ça, OK? Fait que je t'écoute.
Ben, en fait... Je trouvais ça bien intéressant, surtout que j'ai vu récemment qu'ils ont enlevé... ils l'ont pas enlevé, là, heureusement, mais ils ont mis deux singles avant le L. Et je trouvais ça très dommage parce que le L, c'était pour lesbienne. Puis, pourquoi il y avait le L au début du mot LGBTQ? Ben c'était parce que les lesbiennes donnaient du sang lors de la crise du sida. Donc, je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient comme oublié leur sacrifice, on peut dire, pour pouvoir aider la communauté gay, pas juste gay, mais toute la communauté qui avait des relations avec le VIH, SIDA à l'époque. Donc, je trouvais ça bien... ça m'a fait un petit pincement au cœur quand j'ai vu qu'ils avaient ajouté des lettres, un chiffre et une lettre avant le L, parce que je trouvais ça très gratifiant d'avoir décidé de mettre le L avant le G. Parce qu'on dit toujours « gay », mais pour rassembler tout ça, toutes ces lettres. Donc, le L, je trouvais ça bien intéressant de pouvoir le garder au début. Donc, c'est un petit deuil pour moi.
OK, c'est ça. OK, je comprends.
Au début. Mais c'est sûr que tout ce qui est diversité, on a vraiment évolué. On a vraiment réussi à avoir des avancées, une espèce de reconnaissance. Et ça, pour moi, c'est bien intéressant de pouvoir mettre ça de l'avant parce que évidemment, j'habite Montréal. Mm-hmm. On n'est plus en région où on se cachait parce que le gay de service de région, tu sais, à Montréal, on est comme accepté, puis ça devient comme acquis cette vision-là, cette préférence sexuelle-là ou préférence en tout genre. Donc, je trouve ça bien intéressant de le voir que ici on est correct. Je ne reste pas une lapidation ou quoi que ce soit parce que j'ai des préférences autres que hétérosexuelles. Donc, en tout cas, c'est le fun de pouvoir regarder ça puis dire on a fait de l'avancement.
Puis toi, tu l'as... en fait, je te pose la question. Parce que quand on s'est connus, 20 ans et des poussières, depuis ce temps-là, est-ce que tu as senti, parce que je reste encore dans le même sujet, est-ce que tu as senti, ça s'améliore dans mon vécu aussi? Je sais pas si c'est clair, mon affaire.
Bien, l'acceptation de soi, c'est plus ça ta question, j'imagine?
Oui, t'as-tu senti peut-être moins de jugement ou plus de...
En fait, j'ai été un peu chanceux parce que j'ai pas... nécessairement fait de coming out dans ma vie. Je pense que le seul coming out que j'ai fait, c'est dans un taxi à un moment donné avec mon père au téléphone en disant « Bon, là, j'ai quelqu'un à te présenter, puis ça donne que c'est un gars. » Fait que je pense que c'est le seul coming out que j'ai fait. Et sa réplique, que je vais me rappeler toute ma vie, c'est « Ah, on n'en parlera pas à la famille, OK? Fait que ça m'a juste comme fait, ah, OK, bon, ben
ouais, ouais.
Je vais le faire moi-même quand ça va être le moment. Puis sinon, la famille le savait déjà avant que je fasse un coming out comme tel. Alors, des fois, c'est ça. T'as pas besoin d'en faire de coming out.
Ouais, les gens, des fois, les gens, ils détectent des choses, mais ils peuvent se tromper aussi.
Oui.
Mais
combien d'hommes hétérosexuels ont des manières? Ça veut pas dire que nécessairement ils sont sans concernés.
Ben, écoute, quand j'étudiais en danse, à un moment donné, je me tenais avec mon chorégraphe, puis on s'habillait avec des chemises flash rouge. Ouais, c'est ça, j'avais le petit gel des cheveux. Puis les gens, ils disaient, ah, eux autres, sont en couple ensemble. Ça a pris du temps avant que je le comprenne. Puis là, on me l'a dit, ah, vous n'êtes pas en couple ensemble. Là, j'ai allumé que, oups, va peut-être falloir changer quelques vêtements parce que là, j'en vois pas la bonne perception.
Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que justement, tu sais, l'homme hétérosexuel se positionne aussi en disant, ben je veux pas avoir l'air de, je veux pas qu'il y ait une confusion dans mon genre ou dans mes préférences. Puis j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose de très intéressant cette semaine et je tenais à le partager parce que je trouve ça très intéressant. Ça fait 4 fois, 10 fois que je le dis intéressant.
Oui, vas-y donc, ça va être intéressant, je pense.
Il y a un gars qui a dit, c'est pas parce que j'ai le goût d'avoir un doigt dans le cul que ça veut dire que je suis gay. Alors, là, ça élabore beaucoup de tabous. Parce que théoriquement, la vision qu'on a d'un gars qui se fait mettre un doigt dans le cul, c'est bon, ben c'est un gay. Mais il s'agit d'une préférence sexuelle. Donc, est-ce que ça veut dire que cette personne-là aime passionnément les garçons? Pas nécessairement. Mm-hmm. Alors, c'est des préjugés qu'on a qu'il faut débattre et arriver à faire en sorte que les gens. Ben, qu'il y a une espèce d'ouverture, dire ben moi j'aime ça. Ben ça veut pas dire que ça veut dire ça. Tu sais, on est tellement dans des petites cases aujourd'hui que on peut plus dévier ou aimer quelque chose de différent. Donc le phénomène on s'auto-juge beaucoup, surtout quand on fait de la danse puis qu'on est un garçon, ça veut rien dire là.
Ben, t'as raison, puis je le vivais à l'époque, puis moi, à l'époque, c'était, ben, j'ai envie de porter ces chemises-là, c'est tout, puis je porte ça. Mais quand j'ai vu la conséquence, mais là, les filles, ils se sauvaient de moi, là. J'ai dit, OK, là, Houston, ça marche pas. Fait que j'avais une conséquence à ça.
Okay.
Fait que là, j'avais un choix à faire. Puis quand j'ai fait des tests, j'ai mis des vêtements plus virils, des jeans parasuco, puis là, c'était le jour et la nuit. Ah, t'es donc bien beau, puis là, on me touchait les jeans. Fait que là, je vais être bon, ben là... Je veux-tu ma chemise flash ou je... c'est fou, mais ça va jusque-là. Ben, ça va jusque-là.
Combien d'hétéros vont dans les bars gays pour avoir peut-être une soirée qui va finir au lit avec une fille? Puis la fille, l'objectif, c'est « Ah, je vais le faire revirer de bord. » Tu sais, il y a...
Ouais, c'est intéressant, ça aussi.
Bon, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même des fois des petits trucs psychologiques comme ça, là.
Ouais.
C'est bien intéressant.
Puis quand je t'ai rencontré, on était au conservatoire La Salle. Puis là, tu me corrigeras si je me trompe, parce que je pense que tu as une meilleure mémoire long terme que moi. Mais il y avait un show qui était organisé à l'époque qui s'appelait le Talent Show. Puis là, il invitait les élèves qui pouvaient faire un petit quelque chose sur scène puis tout ça. Puis moi, j'avais vu ça passer. Puis bon, j'avais jugé l'affaire. Je m'étais dit, ça, c'est une petite affaire, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas, j'avais dormi au gaz un peu, puis si je me trompe pas, c'est toi qui m'avais... Tu m'avais un peu... Hein, pourquoi tu y vas pas? Tu serais bon, puis tu m'avais un peu...
Bon, j'ai fait ça avec tout le monde.
Tu m'avais un peu donné une petite poussée, puis là, j'avais fait... Ouais, OK, ben oui, justement, c'est une petite affaire, fait que ça sera pas trop difficile. Eh hey boy, moi, je savais pas qu'il y avait du monde qui achetait des billets pour venir, puis là, tu sais, c'était un peu plus gros que ce que je pensais, finalement. Puis là, j'ai vécu cette expérience-là, puis ça a été le départ de toute ma carrière. Fait que là, je te le dis officiellement, je te dois beaucoup parce que...
En même temps...
Je te suis très reconnaissant parce que si tu ne m'avais pas donné cette tape-là, ma vie aurait probablement été autre professionnellement. Là. Ou je serais peut-être revenu plus tard, mais tu m'as donné tu m'as poussé dans un chemin que fait que je te suis ça je pourrais jamais l'oublier là.
C'est très gentil. J'ai le goût de te dire, tu sais, ton succès, tu l'as travaillé, donc échelon par échelon. Ouais. Peut-être ouais. que à ce moment-là de ta vie précisément, c'est ça que tu avais besoin.
Oui, oui, oui.
Puis go, tu sais, t'as, ouais. t'as lâché prise puis tu l'as fait.
Ouais.
Puis ouais. le mérite te revient. Tu aurais pu justement dire, oh.
J'aurais pu refuser.
Ben oui.
Mais je pense que si tu n'étais pas intervenu, je ne serais pas allé. Mm. Ah, OK, tu penses que je ne serais pas. Ouais, ah, OK. T'sais, ça prenait un petit. La petite poussée, là. Fait que je te suis très reconnaissant là-dessus. Puis je rebifurque sur justement la communication, on étudie là-dedans, univers télévisuel. Puis moi, on s'est perdu de vue à ce moment-là. On a chacun continué nos choses. Fait que justement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me mets à jour aujourd'hui.
Après conservatoire.
Ouais.
Ben, qu'est-ce que j'ai fait, donc? je pense que j'avais 2-3 jobs en même temps. Après ça, je faisais des ateliers de théâtre. J'allais chercher des coachs pour m'améliorer, tout ça, des productions autogérées. Je suis devenu membre de l'UDA, donc j'ai fait de la figuration, des troisièmes rôles. Mm-hmm. J'ai eu un mini rôle parlé à un moment donné. C'était satisfaisant de pouvoir jouer, tu sais, puis de. Puis ce qui m'a.
Rôle parlé. À la TV ou web?
À la télé. TV, OK. On parle de télé. Mm-hmm. Mais, veux pas, tu sais, on peut pas rester à la maison à attendre le prochain rôle de ta vie. Donc, j'ai parti des productions web. Donc, j'ai parti Kaput, K-A-P-O-U-T. Donc, on était une petite gang de comédiens qui faisaient des bureaux, tout ça, là, des petits gags de 15 secondes. À l'époque, c'était pas populaire, là, des 15 secondes. Aujourd'hui, avec TikTok, ça l'est davantage. Mm-hmm. Mais on faisait ça. Après ça, on a créé un site web. On a fait, avec Marie-Laurence Dubé, on a fait Charlotte, qui était comme jumeau-jumelle, mais avec des perruques. En fait, j'adore avoir des perruques parce que, tu sais, c'est clair que c'est un personnage.
Ouais, ouais.
Fait que j'ai souvent des perruques, puis j'en ai plein encore aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Fait que les séries web, ça a beaucoup joué dans ma vie parce que tu apprends sur le tas. Tu sais, veux pas, t'as pas d'équipe, t'sais, t'as pas 10 000 personnes autour de toi pour faire ta production. Donc, tu te débrouilles avec ta mini-caméra, tu connais les bases, t'as étudié au conservatoire. Fait qu'il y a comme... Il y a des bases que tu maîtrises, mais rien de mieux que de l'essayer pour vrai, puis d'arriver en montage, un plan de vue qui ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave, il faut l'essayer, il faut faire des erreurs. Puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, ben, plus je fais de la vidéo, ben, j'ai mes trucs, j'ai ma façon de faire, qui fait en sorte que j'ai fait ça, c'était pas bon, je n'aimais pas mon cadrage, je sais quoi faire maintenant. Fait que j'apprends au fur et à mesure. C'est sûr que on voudrait tous baigner là-dedans 24 heures sur 24 quand on aime ça et on est des passionnés, mais on n'a pas nécessairement l'occasion. Fait que le fait de le faire soi-même, ben, t'apprends de tes erreurs, puis je pense que c'est ça qui est glorieux aussi parce que tu finis par être fier de toi. Là. Même si dans un an, cinq ans, tu vas le regarder et tu vas faire « iiii ». Mais à ce moment-là de ta vie, c'est là que tu étais rendu et mm-hmm. tu as maîtrisé ce que tu connaissais.
L'univers télévisuel, là, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est quoi le... Comment ça marche pour avoir un rôle? C'est-tu une question de contact selon toi? C'est-tu une question de... faut avoir gros des abonnés? C'est une question que tu fais une grosse série puis ils viennent te chercher. Selon toi, c'est quoi la mécanique de ça? Qu'est-ce que tu en as compris?
Ben, ça évolue, là, c'est sûr, avec le temps. Mm-hmm. Je dirais que, à la base, peu importe le métier, le doublage, jouer des personnages dans une série, tout ça, ben, il faut avoir une base. Donc, vraiment, maîtriser le texte, avoir des connaissances d'apprentissage, de texte, de mouvement, de toutes les méthodes, Stanislavski, tout, faut que tu saches un peu dans quoi tu t'embarques. Fait que déjà, en partant, si tu n'as pas ça, ça va être un petit peu difficile. Mais c'est pas impossible. Il y en a des gens qui font des téléréalités, puis après ça, un rôle, tout ça. Mais ils apprennent un peu plus sur le tas. T'sais, peut-être qu'ils vont aller chercher des cours ici et là. Mais il y a une base en général. Donc ça, c'est vraiment important parce que tu ne perds pas de temps dans ce temps-là. Le réalisateur, le producteur, il ne veut pas perdre du temps parce que tu ne connais pas ton texte. Là.
Oui.
Donc, vraiment, c'est important. Sinon, ben c'est sûr que les contacts, ça joue. Moi, à un moment donné, il y avait une agence de casting qui m'avait dit « On fait plus ou moins passer d'auditions parce que les gens, on n'a plus le budget pour inviter des gens dans les studios
ça.
Pour pouvoir les avoir en audition. » Donc, ce que j'ai compris, c'est que les gens... Bien, les producteurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient la télé et ils faisaient leur casting comme ça. Et c'est pourquoi on peut dire que c'est tout le temps les mêmes à la télévision. En même temps, on n'est pas contre, dans le sens où on est content de reconnaître quelqu'un parce qu'on l'a déjà vu dans autre chose. Fait que comme public, on est comme « Ah, ben là, c'est clair, ça va être bon. »
C'est rassurant aussi, oui.
Je n'aimerais pas de nom, mais c'est telle personne. « Oh my God, je la connais. Elle a joué dans ça, c'est clair, ça va être bon.
Ouais, » ouais.
Donc ça, c'est sûr, c'est un gagnant-gagnant. Tu sais, pour le producteur, tu dis « Bon, ben elle s'est jouée, elle a déjà joué, elle est bonne. »
On ne va pas
inventer la roue, là.
Ouais, ouais.
Versus faire des auditions, je ne sais pas
une nouvelle.
Je ne sais pas, je vais-tu perdre mon temps?
Elle
va-tu faire des caprices? Je ne sais pas. T'sais.
Ça, je ne savais pas ça qu'ils ne faisaient plus d'auditions.
Ben, ils en font de moins en moins. Je ne dis pas qu'ils n'en font plus aucune, là, mais je dirais que c'est de moins en moins. Mais ce qui vraiment pogne aujourd'hui, je pourrais dire, c'est la diversité.
Donc, on le voit. Ben,
on en manque.
Juste sur Netflix, on le voit. Là. C'est là, on est dans l'ère de la femme.
Oui,
tu remarqueras, c'est si un boss dans l'histoire, il faut que ce soit une femme.
Ben là, ça a tellement été longtemps,
effectivement,
les hommes.
Mais là, c'est ça. Là, on en est là. Il y a aussi beaucoup de femmes noires. Mais tu le vois qu'ils poussent, là, vraiment.
Mais c'est important. C'est important parce que les jeunes femmes noires n'ont pas de référence aujourd'hui. Fait que si tu ne te reconnais pas à la télévision, comment tu évolues dans un monde où tu n'existes pas? C'est weird, là.
Mm.
Il faut de la diversité. Puis, je le sais que c'est comme un peu... C'est un discours un peu bizarre d'un homme blanc qui dit « il nous faut de la diversité!
» Tu prêches un converti parce que toutes mes idoles, ou presque, c'est des Noirs.
Bon.
Mais toutes les gens, Michael Jackson, Mohamed Ali, je m'en allais quelque part, j'ai perdu mon idée. Mais je trouve que, oui, je suis d'accord avec toi pour la diversité. Je devrais peut-être pas dire ça, là, je vais peut-être me faire arracher la tête, mais je trouve que là, ça paraît qu'il... T'sais, c'est comme si avant, il y avait peut-être eu trop de ketchup, juste des hommes. Puis là, ils sont sur un maillot. C'est juste le maillot. Mais là,
il va y avoir un équilibre à un moment donné.
J'ai hâte que ça se rééquilibre.
Oui.
Parce que tu cherches de quoi regarder. Tu dis, bon, là, c'est correct. Je peux voir de quoi avec des femmes. C'est cool. Tu sais que c'est plus doux, mettons.
Oui.
Puis là, si je veux voir le côté homme, mais là, je ne l'ai plus. Fait que, j'aimerais ça pouvoir me promener. C'est un peu ça. Mais oui, je suis pour la diversité aussi, parce que c'est le fun de temps en temps. La série, comment ça s'appelle? Les voleurs de banque, là. Casa del Papel.
Oui.
Ben, ça vient de d'autres pays et tout ça. Fait que ça nous permet de... On ne l'aurait pas connu sinon.
Non,
si on avait juste du américain standard, on ne l'aurait pas. Mais c'est ça.
Puis il y a des programmes aussi qui s'offrent maintenant pour avoir de la diversité, autant la réalisation que la production, que ce qu'on voit, comédien. Donc, il y a un effort qui est fait. Il y a 2-3 ans, là, j'avais fait une grosse critique qui disait « Il nous manque la diversité, ça n'a pas d'allure. » Je veux dire, je vois plus de gens de couleur dans la vraie vie que sur la télé.
Au Québec, tu veux dire?
Au Québec, exact.
Ouais.
Fait que ça n'a pas de sens, là.
Oui.
C'est comme, on ne vit pas dans un monde fermé, là, les gens de la télé. En tout cas.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai remarqué sur Netflix, mais je pense que tu as raison pour la télévision québécoise. Ben, je pense qu'il y en a de plus en plus tranquillement. Là.
De plus en plus, heureusement.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis, ça a été quoi tes. Parce que, tu sais, comme on se disait un petit peu avant l'émission, on a tous les deux continué de tricoter notre côté artistique, si je peux le dire de même. Ça a été quoi tes. Y a-tu des moments que. Parce que moi aussi, j'en ai eu dans ma carrière, que j'ai exploré plein d'affaires. J'ai eu des moments de deuil artistique à faire, ou de. Tu sais, tu bûches pendant quelques années pour de quoi, puis ça finit un peu en queue de poisson. Ou t'as-tu des. As-tu des deuils ou des choses que tu fais, ouais, ça, ça m'a fait chier ou.
Ben, des fois, c'est juste une question d'espoir, tu sais. Je t'en ai parlé plus tôt avant l'entrevue. Parfois, tu sais, tu souhaites être repêché.
Ouais.
Tu sais, tu souhaites que, ben, on te reconnaisse parce que, ben, là. T'essaies d'être partout, hein, sur ouais. la série web. Aujourd'hui, ouais. ben, on a TikTok, Instagram, YouTube, etc.
Ouais.
Donc, on pense, on vit dans un univers où on se dit, ben là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me voir puis il va dire, ben lui, il y a quelque chose à faire avec lui.
Mm-hmm.
Sauf que t'attends chez vous tout seul.
On attend pas mal. Hein?
Fait que si je cogne pas aux portes puis que je ouais. dis pas, hey, j'existe, ouais. ben il n'y a rien qui va se passer. Mm-hmm. Donc, c'était peut-être aussi, je pense aussi, une critique de la nouvelle génération, je dirais. C'est qu'on apprend plein de choses, on maîtrise plein de choses, mais on pense qu'on, tu sais, que quelqu'un va le remarquer, puis qu'on va être bon, puis que, tu sais, on n'a plus la mentalité de prendre son CV, puis d'aller postuler pour un emploi.
Pourquoi tu dis de la nouvelle génération?
Mais je l'ai vu beaucoup dans ce que j'ai consommé comme réseaux sociaux.
Ouais.
C'est que les gens attendent qui se passe de quoi dans leur vie,
ouais, ouais.
plutôt que de cogner aux portes ouais, ouais. comme ouais, tel.
Ouais, ouais, je te suis.
Donc, c'est un peu. Puis en même temps, je dirais que c'est comme ça qu'on se forme aussi. Tu sais, on apprend des logiciels, on apprend des choses, on maîtrise plein de façons de créer, disons.
Mm-hmm.
Tu deviens un peu un expert. Fait que là, mm-hmm. Il n'y a personne qui va te dire tu vaux tant. Fait qu'il faut que tu négocies après que quelqu'un t'aille repêcher. C'est un peu weird.
Ouais.
Fait que, en tout cas, je le vois beaucoup
ouais.
parce que les gens s'auto-forment aujourd'hui beaucoup plus.
Puis je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il y a beaucoup de dilemmes. Puis moi, tu sais, vu qu'on parle de ça, moi, je deal mieux avec ça, mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai compris que c'est plus une game de marketing qu'une game de talent. Autant dans la business de coaching, que peu importe tout ce que j'ai touché, t'as beau avoir le meilleur talent du monde, dans peu importe ce que tu fais, si tu comprends pas le marketing, t'es mort. Si tu fais pas de publicité ou de la bonne façon, ou tu t'as pas les bons mots dans les pubs, puis là, tu sais, fais pas tel mot, c'est tel autre. Puis cette game-là, ça m'a fait chier, mais il a fallu que je l'apprenne.
Ouais.
Mais à un moment donné, il faut que tu... OK, c'est ça la game. Puis là, tu sais, c'est... Fait que oui... Tu sais, des fois, les gens vont dire « Il te suffit d'être authentique. » Ça…
Il y a bémol là-dessus?
Ben oui et non, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Tu sais, il y a des affaires que si tu le présentes de même, ça vendra pas. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui arrive pour t'acheter de quoi, puis tu dis tout de suite le prix, puis c'est même, tu sais, t'as rien expliqué. Quoi, je suis authentique, je te dis, tu sais, le client me demande comment ça coûte, je dis, quoi, ouais. mais il l'achète pas.
Non, ça il veut l'histoire, le pourquoi marche. De...
Ben, il faut que tu lui donnes le goût, plus que tu peux pas juste donner ton prix, il va fuir.
Mm-hmm.
Même si le prix est bas, qu'il soit bas ou haut, il entend un prix, il fuit. Fait que c'est un exemple de, c'est pas vrai qu'il suffit d'être authentique, je me casse pas la tête, je donne mon prix, puis c'est tout. T'sais, fait que moi, je l'ai beaucoup vécu ça dans des salons. On allait dans des salons puis on expliquait nos services. Les gens disaient ça coûte combien? Mais là, tu dis un prix, mais oui, mais tu sais même pas c'est quoi? C'est-tu une heure, c'est deux jours, c'est trois jours? T'sais, tu sais pas dans le fond. T'sais, mettons, je te dis, j'ai un char à te vendre.
OK.
Puis tu me dis, OK, combien? Je te dis 200 000. Tu vas être un astide malade. Mais peut-être que c'est une Ferrari qui vaut 1 million puis que c'est le deal du siècle. T'sais, tu vois-tu? Mais j'ai pas le temps de te le dire. Tu t'es sauvé avant. Tu comprends?
Ouais.
C'est tout cette. Mais bref, c'est le côté ce côté-là que je trouve un petit peu plate peut-être de notre époque. C'est quoi tes... Parce que là, on a parlé un peu du passé, tout ça. C'est quoi tes projets futurs? Tu veux t'en aller où, là, avec ta... Parce que comme on parlait avant l'émission, moi, je regarde ton TikTok puis je me dis, ah, man, il y a de la créativité là-dedans, il y a de l'ouvrage là-dedans. C'est quoi, tu aspires à quoi? Tu veux t'en aller où?
Excellente question, David. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai déjà eu des objectifs. Mm-hmm. Mais avec le temps, je pense que c'est de me surpasser. Je te dirais que c'est plus mm-hmm. ça mon objectif. C'est mm-hmm. de voir, de maintenir le rythme de production, de jamais lâcher, de toujours avoir quelque chose à présenter.
Mm-hmm.
Et de... C'est une pression, mais c'est une pression saine, parce que c'est correct là, que je publie pas une journée. Là. C'est bien correct. C'est juste que j'essaie toujours de voir quelle production je peux faire, quel style je peux faire différemment, mm-hmm. tout ça, avec des suites. C'est souvent ça mon objectif. C'est que si j'ai un modèle de production, bien, je veux qu'il soit pas juste une fois, mais qu'il puisse se tenir. Donc, si quelqu'un aime ça, bien, il va pouvoir aimer quelques autres épisodes, c'est exemple.
Mm-hmm. Puis là, tes choses artistiques, est-ce que tu tires des revenus de ça? Est-ce que tu en vis? Est-ce que...
Non, aucun revenu. C'est pas très payant pour moi, en tout cas. Les revenus sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, est-ce que c'est... Ça peut devenir une béquille.
Okay.
Ça peut t'empêcher d'être créatif aussi à un certain niveau. J'ai pas été approché. Sauf que je sais que si... j'ai connu des gens que s'ils portaient tel chandail, exemple, dans une story X, hey, tu peux pas porter un autre chandail le lendemain là, qui est dans une autre compagnie, exemple. Donc, il y a des petites contraintes comme ça que ouais. faut toujours que tu sois conscient, même si ça fait partie de ton univers. C'est chez nous, c'est mon tas de linge qui est à côté.
Ouais, ouais.
Il y en a d'autres marques, là, ben non, faut que tu sois constant dans ça. Puis c'est correct, là, il faut... Donc, il y a quand même des petites choses, des fois, que tu dis, ah, j'ai pas pensé à ça. Ou tu dis une petite affaire, puis tu fais, ah, non, c'est pas l'image de la marque que... même si c'est pas dans le TikTok ou la production, que tu sais, la petite story, ben tu dis quelque chose de travers, tac, la compagnie n'est plus là parce que tu ne représentes plus la compagnie par rapport à ce mot-là que tu as peut-être dit ou cette façon d'agir-là qu'il ne consent pas du tout. Là. Donc, il y a des terrains glissants là-dedans aussi. Fait qu'il faut lire leur contrat puis bien gérer ça, je crois. Mais comme je dis, je ne l'ai pas vécu. C'est bien correct. Dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est de créer puis de me surpasser au fur et à mesure.
Qu'est-ce qui arrive si... Est-ce que là, tu as un autre travail aussi?
Oui, exact.
Mais qu'est-ce qui arrive si il y a quelque chose qui explose, puis là, il y a des revenus qui roulent de tes choses artistiques? Est-ce que tu dirais, moi, je veux en vivre complètement, puis bye-bye le travail, ou c'est non, je veux... Je rêve pas d'en vivre. T'es où là-dedans dans ton désir?
Je pense qu'il y a... faut savoir faire la part des choses. C'est souvent des trucs de, tu sais, des contrats, des trucs déterminés dans le temps. Donc, ça peut se gérer avec l'organisation pour laquelle je travaille. Donc, il y a toujours une façon de s'organiser. Mm-hmm. Faut savoir que quand j'ai commencé où je travaille présentement, j'ai pas décidé d'être à temps plein du jour au lendemain. C'est que je faisais comme une fin de semaine sur deux ou des trucs comme ça parce que je faisais des contrats.
Mm-hmm.
Sauf qu'à un moment donné, ben il faut manger. Donc, je suis devenu à temps plein. Donc, une stabilité financière. Donc, ce qui a fait en sorte que ben j'étais bien quand même de pouvoir me nourrir à chaque semaine, à chaque jour. Donc, le côté artistique n'a jamais vraiment pris le bord, mais a pris moins d'importance. Puis en même temps, c'est bien correct dans le sens que j'en avais moins de contrats de production, de montage, tout ça. Je faisais l'écriture aussi à cette époque-là. Donc, moins de contrats avec une job qui pouvait devenir une job stable. Bien, j'ai pris ce chemin-là, mais j'ai jamais arrêté parce que je pouvais travailler ici et là, faire des 7-15aines, des journées ici de tournage, etc., puis revenir... où je travaillais. Donc, je ne suis pas fermé à une production X, mm-hmm. sauf que je vais prendre le temps de le gérer, je pense.
Là, je vais te laisser le choix.
Okay.
Des deux prochaines questions, tu vas pouvoir décider dans quelle porte tu rentres. Anxiété ou conseil que tu pourrais donner ou leçon pour la communauté gay?
Peux-tu répéter la question? On va y aller avec la famille.
Est-ce qu'on rentre dans communauté gay, conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se le demande, ou si on rentre dans l'anxiété? Je te laisse le choix des portes. J'essaye cette formule-là aujourd'hui.
OK. J'aime pas l'idée d'être un conseiller.
OK.
Parce que je ne me considère pas comme un modèle comme tel. Mm-hmm. Par contre, j'ai du vécu.
Mm-hmm.
Donc, je peux peut-être en parler un peu.
Ben oui.
Puis, dans le fond, quand je suis arrivé à Montréal, j'allais au conservatoire, là.
Mm-hmm.
Et il y avait des soirs, je pense les jeudis, les vendredis, on commençait à sortir beaucoup, tu sais, à prendre beaucoup d'alcool, tout ça. Mais on buvait énormément. Mmh. Et c'est ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais recommander nécessairement aux gens. C'est sûr que ça fait de côtoyer des gens sociables, tout ça, tu as une certaine inhibition. Parce que, on s'amuse, c'est la fête, tout ça. Sauf que, après coup, le lendemain, le surlendemain, tu as de la difficulté, puis tu as de plus en plus de difficultés à pouvoir décrocher de ça parce que tes amis deviennent tes amis de bord. Et finalement, la seule activité que vous avez, c'est de boire. Donc, si j'ai un conseil à dire, c'est qu'à un moment donné, tu arrives dans ta vie où, tu sais, les 5 personnes qu'on côtoie et représentent qui tu es.
Mm-hmm. On l'a entendu souvent, celle-là. Hein?
Je l'ai beaucoup. Mais oui. J'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 2-3 ans.
Mm-hmm.
Puis, honnêtement, j'ai pris des décisions, mais c'est pas. Tu sais, ces gens-là, c'était pas nécessairement des mauvaises personnes. C'est plus comment moi j'étais. Avec eux, tu sais, le sentiment d'être plus game, de faire plus de niaiseries, tu sais. Fait que ça, je l'ai vécu beaucoup plus jeune.
Mm.
Puis en grandissant, je fais, j'ai manqué de respect à tellement de gens. Puis d'être conscient de tout ça aujourd'hui, puis de dire, écoute, je veux juste aller dans la bienveillance, puis de trouver... qu'est-ce qui peut améliorer chaque personne? Parce que, comme je dis, je me considère pas comme un modèle. Tu sais, en plus, avec les réseaux sociaux, on a tellement de références ou de trucs qui s'est passé, puis tu fais « wow! » Tu sais, puis là, tu en retires, toi, une leçon. Fait que tu dis « ih, j'ai fait ça! Ih! » J'étais pas une bonne personne. Fait que le fait de voir ça, exemple, là, j'ai déjà pogné les fesses de quelqu'un dans un bar. Mais ça se fait pas! Mm. Mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais avec le taux d'alcoolémie, tout ça, tu dis, c'est correct, c'est le fun, puis on en rit. Mm. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, c'est une agression.
Mm.
Fait que, pas aujourd'hui. C'était une agression à l'époque aussi. C'est juste que tu es comme un peu plus conscient de ce qui se fait, puis de le respect de l'autre. Puis... Donc, bref, comme je dis, j'ai pas l'intention d'être un modèle. Sauf que je peux dire qu'avec le temps, on évolue, puis on est plus conscient de qui on était, puis qu'est-ce qu'on veut devenir.
Tu parlais tantôt justement que tu as fait beaucoup de travail de croissance personnelle sur toi dans les 2-3 dernières années. Moi, je crois avoir observé un boom. On dirait que la pandémie a amené ça. Des gens, ouais, là, je suis seul chez nous, hein, attends une minute, là. La moulinette, elle tourne, là. Est-ce que dans le fond, là, ma question.
Ouais.
Est-ce que le fait que tu aies dit, OK. Là, je travaille sur moi. Est-ce que il y a un lien avec la pandémie parce que c'est arrivé puis ça l'a amené ça ou tu étais déjà rendu là puis ça n'a pas rapport avec la pandémie?
J'étais déjà là avant la pandémie. Okay. C'est juste que c'est sûr que ça l'a
amplifié.
Oui, voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Okay. Puis le fait de côtoyer aussi les nouvelles, moi, pendant la pandémie, j'étais accro aux nouvelles. Mm-hmm. En plus, RDI était, était comme connecté 24 heures sur 24, là, disponible. Là. Uh-huh. Donc, j'écoutais les nouvelles en boucle. Ça devenait comme une espèce de film que je me faisais dans ma tête. Là, on va tous mourir. Donc, c'est sûr que de consommer tous ces drames-là, uh-huh. Ça vient te chercher, puis tu te poses des questions sur ta vie, puis où tu veux aller, puis qu'est-ce que tu veux devenir, tu sais. Donc, mm-hmm. c'est sûr que ça a travaillé, là, la pandémie, pour tout le monde.
Mm. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, là, mm-hmm. tu ferais quoi avec? Tu l'as pas vu venir, celle-là.
C'est intéressant, mais en même temps, on peut pas. Je pense que je la casserais.
OK.
Pour que.
Je vais pas revenir celle-là non plus.
Parce que. On apprend. Fait mm-hmm. que dès que je vois des bonhommes sourires, je vois des gens qui ont du fun à consommer mon contenu. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est l'idéal. T'sais. C'est pour ça que je le fais, là. Mm-hmm. De voir qu'il y a des réactions. T'sais.
Mm-hmm.
Puis. On parlait d'argent un peu tantôt. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, mais en même temps, peut-être que ça enlèverait un petit sentiment de. Tu sais, comme je le fais pas pour l'argent, tu sais.
Oui, oui.
Je le fais pour le bonheur que je peux procurer aux gens. Là. C'est ça ma paye.
Mm-hmm.
Pour ça, le théâtre, c'était une de mes passions parce que justement, tu le reçois tout de suite après le show là, ou pendant, les rires, tout ça.
Ouais.
C'est sûr que c'est tellement intense. C'est pour ça que tu veux recommencer. Tu vas en faire d'autres. Des shows de danse, la même affaire.
Ouais, ben moi aussi, c'est ça. Je comprends le feeling d'être sur scène puis avoir le hype. T'as-tu des grands regrets?
Grand regret. Déjà les questions aujourd'hui.
Boum, boum, boum.
J'en ai plein. Uh-huh. C'est sûr. Tu veux un silence de combien de temps?
J'avoue qu'elle n'est pas évidente. Non, tu peux balancer non. Ça, tu vas attendre une minute là. On va te gérer à Poutine puis on s'en reparle. Hein? Ouais.
Ben j'ai toujours voulu être plus présent pour ma famille, mm-hmm. mais ça a été très difficile lors du décès de mes parents. Parce que c'était comme un gros drame familial. C'est que mon père a tué ma mère, puis après ça, il s'est enlevé la vie. Donc, okay. C'est sûr que ça a un peu divisé la famille, dans le sens qu'il y avait la famille pour ma mère qui, tu sais, qui comprenait, bien, il n'y a personne qui comprenait, là, c'est sûr. Mais, puis après ça, il s'est enlevé la vie, fait qu'en plus, il y a un suicide à travers ça. La famille a été un peu éparpillée avec leurs opinions, puis nous, on était deux enfants qui étaient complètement... désemparé là, à travers cette expérience-là.
C'est clair.
Puis de savoir, comme, OK, mais là, est-ce comment... aujourd'hui, c'est un peu plus réglé, là, mais le feeling d'être séparé entre est-ce que je suis plus avec le côté de ma mère ou avec le côté de mon père, même si la famille n'avait rien à voir là, avec l'histoire principale. C'est juste que, veux pas...
On
est comme mêlés. Uh-huh. Mais heureusement, j'étais majeur puis que je vivais ma vie déjà.
Ça, c'était-tu avant le conservatoire ou après?
C'était après.
Okay.
C'était après, ouais. C'était pendant que je travaillais au Gémeaux à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
Et là, ouais. Là. Ouais, tu m'as balancé...
On m'a donné congé.
Ouais, là, tu m'as balancé une bombe. Je pensais que je t'ai balancé des bombes, mais... ouais. OK.
Mais c'est sûr qu'un drame comme ça change une vie. ça change ses perceptions. Puis, tu sais, on parlait d'enfants tantôt.
Ouais, vas-y donc, c'est quoi les perceptions qui ont changé?
Ben, je me suis toujours... Tu vas faire mon psy, là, mais c'est correct que j'en ai un. Mais c'est que on se met aussi à la place de... Tu sais, on veut... Est-ce que je peux pardonner à mon père d'avoir fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On le saura jamais. Mais là, après ça, comme enfant, tu te poses la question, est-ce que j'ai ça en moi?
Oh, OK. Ouais, ouais.
Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai cette personnalité-là qui peut être déconnectée complètement puis d'arriver à pousser au meurtre? Tu sais, ça fait beaucoup de questionnements personnels. Puis, tu sais, on a jamais vraiment de réponse. Là. C'est plus une question de comment tu vas te gérer. Là. C'est malheureusement, c'est un peu le leg que j'ai eu de cette blessure-là.
Des espèces de questionnements internes. Comment je pourrais dire ça? Un démon intérieur qui te ronge un peu. Là.
Ça fait partie
de la vie. Je n'avais pas venu celle-là. J'avais pas fait ce lien-là.
Mais c'est qu'en le vivant,
j'aurais pas pensé à ça.
Mais tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça qui est malheureux. C'est que ça peut déconnecter complètement dans n'importe quelle famille. On n'est pas à l'abri de ça, tu sais. On parlait d'anxiété. C'est exactement ça. Puis le besoin de parler, la psychologie, les gens ont été enfermés pendant la pandémie.
Ouais.
Donc, vivaient clos sans nécessairement avoir de ressources pour pouvoir parler à quelqu'un. Disaient, hey, ça va pas, là.
Ouais.
Je vis 24 heures sur 24 avec ma femme, mes enfants. Je ne peux plus les supporter pendant qu'ils sont en télétravail, etc. Il y a une bombe intérieure qui est arrivée parce que ces gens-là n'avaient pas pu ou pensé qu'ils pouvaient avoir demander de l'aide, qu'ils pouvaient demander de l'aide, tu sais. Puis quand tu vis le milieu, là, comme je l'ai vécu, c'est que tu vis aussi le je parle beaucoup de mon père là, dans ce sens-là, parce que je me mets à la place de mon père, mais la place de la mère aussi, là, à ce moment-là, précisément, ma mère a pensé le quitter. C'est un peu l'histoire, là, mais sans trop de détails. Et est-ce que son attitude a peut-être aidé. En tout cas, fait en sorte que la bombe a été plus intense chez lui ou pas du tout, elle l'a pas vu venir. Tu sais, plein de questions que je vais vivre toute ma vie avec ces questions-là. Là, c'est vraiment... c'est intense, mais c'est ça. Ça fait partie de moi aujourd'hui.
Mais oui, Colin. Que dire? Qu'est-ce que je peux dire après ça? c'est un peu...
J'essaie de dédramatiser un peu. Tu sais, je souris, j'essaie de l'expliquer de manière rationnelle.
Ouais.
Mais tu sais, il y a des années derrière ça, il y a de la psychologie aussi derrière ça, des gens qui m'ont aidé. Donc, je peux aujourd'hui en parler de manière rationnelle, sans tomber dans le drame, tout ça. Mais c'est sûr que c'est une évolution.
C'est un work in progress.
Exact.
Ouais. Colin. OK. Puis, que dire après ce sujet, mon Dieu? De cette expérience-là, est-ce que ça t'a... Parce que oui, bon, il y a eu des bouts de tough, là, c'est sûr. Mais y a-tu des choses... Là, j'essaie de trouver l'angle mort, là, mais y a-tu des choses qui t'ont motivé de ça? Y a-tu une force ou quelque chose qui est sorti de là, t'as dit « Ah! » Je vais rebondir là-dessus ou ça va me propulser à... Je sais pas, là, j'essaie de voir s'il y a un angle mort.
Quelque chose qui peut rebondir de positif, c'est ça que tu
veux
dire?
Ou qui t'aurait... Ouais, c'est ça. Ou qui, ou peut-être que tu t'es connu d'une manière que, ah, si je ne me serais pas connu de cette façon-là, sinon je ne sais pas, là, j'essaie de voir ce que je questionne.
Oui, ben, il y en a plein de choses de positives qui est arrivé aussi à travers ça, d'être plus conscient de moi, de qui je suis, puis ce que je veux devenir, c'est sûr. T'sais, je considère quand même mes parents comme étant des modèles malgré tout. Je sais que c'est weird un peu à dire.
OK.
C'est dur à cause de la faim.
Oui.
Mais tu sais, moi, j'étais pas
là. Il y a eu un avant.
Il y a eu un avant, dont mon éducation.
Fait que tu peux faire la part des choses.
Je pense que oui.
Tu peux le séparer un peu. Ça me fait penser. Des fois, on le voit ça pour des artistes. Je reviens au fameux Michael Jackson. Là. C'est facile pour moi parce que je l'ai imité pendant des années. Mais t'as l'artiste sur scène, t'as sa vie privée. Mm-hmm. Fait que on choisit. Est-ce que je murmure entre les deux? Est-ce que... Puis je dis, ben que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est sa vie privée. Moi, je me concentre sur l'artiste. Ou, tu sais, il y a tout ça oui. là, qui rentre en ligne de compte.
Pouvons-nous séparer l'artiste de l'œuvre?
Ouais.
Puis surtout.
C'est un autre sujet, ça. Mais t'en penses quoi de ça? Séparer l'artiste de la vie privée? Parce que là, on est dans la mode de. Ah, il a fait ça dans sa vie privée.
Ouais.
Il a trompé sa femme dans sa vie privée. Fait que là, il perd ses contrats avec les sponsors. Puis tu sais, là, tout ça.
Puis c'est une question que je trouvais bien intéressante pour toi aussi, parce que justement, Michael Jackson.
Ouais, vas-y donc. T'as l'air inspiré, là.
Je pense que c'est une question de comment c'est amené, comment. Tu gères la chose. C'est, on a des artistes au Québec qui ont vécu des scoops dramatiques qui ont pu rebondir, mais il y en a d'autres que pas du tout. Donc, tout est une question de gestion de ça et de... Dans les médias, ils en ont parlé aussi, l'émission Dans les médias. Puis je trouvais ça fabuleux comme... analyse, parce que eux, c'est ça leur objectif, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans les médias. Mm-hmm. Puis, ce genre de drame-là, pour eux, c'était vraiment de pouvoir l'analyser sous toutes les angles, puis dire, ben, comment on va... qu'est-ce que t'en penses, toi, tout ça? Un peu ce que tu m'amènes. Et puis, je dirais que c'est ça. C'est un peu dans le respect aussi des victimes. C'est surtout ça qui est difficile, je crois. C'est difficile parce que la victime va toujours être victime, malgré que la personne a peut-être pris soin d'elle psychologiquement, a peut-être suivi des thérapies, whatever, des aller dans les AA, whatever. On prend conscience d'eux, mais la victime, elle va toujours rester victime. Elle l'a vécu. Puis c'est un peu à la victime de se pardonner aussi à travers ça. Dis ben ça fait partie de moi. C'est triste, là, je le sais, mais c'est un peu comme ça qu'on peut avancer aussi.
Mais ça amène le débat rhétorique de est-ce qu'on peut aimer un artiste qui aurait... Mais là, ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il aurait ou il l'a fait? Parce que des fois, c'est il l'aurait, mais...
On n'a pas les détails.
Il n'y a pas de preuves ou il n'y a pas... Là, t'es comme, ben là, moi, j'ai-tu le droit de dire que j'aime sa musique, là? Mais ça va jusque-là.
Oui.
Sans offenser personne.
Ben, disons que je le dirais pas fort.
Ouais, ben là, c'est des fois, tu le sais plus. Mais écoute, on est rendu là.
Mais c'est un débat très intéressant. Et je pense pas qu'on a de solution nécessairement. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'un artiste va avoir fait dans le passé. Mmh. Même notre premier ministre a déjà... on l'a vu déguisé à un moment donné, puis on a dit « ça passe pas, ça! » Fait que, veut pas, il y a personne de blanc complètement, là. Donc, faut... je pense que le problème de notre société...
Ouais, vas-y donc.
C'est vraiment qu'on met tous les artistes sur des piédestals, mais ça veut pas dire qu'ils sont des modèles nécessairement. Peut-être que tu aimes sa musique, peut-être que tu as vibré, c'est ta chanson de première date, ta première rencontre, c'est la même affaire, mais ta première fois que tu fais l'amour, whatever, c'est la musique qui jouait et ça t'apporte à toi ce feeling-là.
Mm-hmm.
Fait que tu viens chercher quelque chose puis tu te l'appropries. L'artiste, t'a offert quelque chose, tu fais ce que tu veux avec. Tu l'aimes pas. C'est l'œuvre que tu consommes qui devient à toi, là, d'une certaine façon, parce que tu te l'appropries. Donc, l'artiste, tu le mets, par habitude, tu le mets sur un piédestal parce que c'est lui qui te fait vibrer à travers son œuvre. Mais sa vie, ça peut être de la scrap complètement, là.
Oui, question. Mais, oui. Oui, on a une question du public. Oui,
on a une question du public. Oui. Dans le même exemple, dans le même contexte que tu dis, on prend genre R. Kelly. C'est un artiste. Tu connais R. Kelly?
Malheureusement.
Ah, damn, ça va pas continuer la même phase. R. Kelly, le gars, c'est un artiste R&B américain. Yeah. Tu connais R. Kelly? Tu sais c'est qui?
Oui.
Ben, il y a des gros hits, genre, qui sont allés, vraiment les plus gros hits qu'il doit avoir sur la planète. I believe you can fly. Okay. Okay. Mais avec le scandale qui est arrivé, ça ressemble à un peu à ce que tu dis, mais est-ce que tu peux continuer à écouter sa musique sachant que le gars, il a été impliqué dans la pédophilie?
Mais c'est une excellente question, mais comme je dis, ben, je suis plus du genre, as-tu t'approprié la musique et tu en fais quelque chose de personnel plutôt que de mettre sur un piédestal la personne qui l'a chanté, la personne qui l'a composé, whatever. Tu sais, démystifier l'œuvre de l'artiste, je pense que c'est important, puis de ne pas nécessairement mettre l'artiste sur un piédestal. On l'a vu, il y a un film, le Elvis, il paraît, je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît qu'ils n'ont pas parlé du tout de son côté attirance envers les jeunes femmes en bas de 18 ans. Donc, puis c'est un biopic. Donc, est-ce qu'on voulait garder le Elvis sur un piédestal qu'on connaît tous, tu sais, qu'on a tous entendu le monde crier sur sa musique? Mais en même temps, sa femme, c'était quelqu'un qu'il a rencontré qui avait comme, je pense, 16 ou 17 ans.
OK.
Puis il était déjà plus âgé. Puis sa deuxième. Tu sais, c'est ça. Ouais. Céline Dion, le film. S'appelait Céline ou comment il s'appelait? Le film. En tout cas, la biographie de Céline Dion, mais qui n'est pas Céline Dion, c'est une œuvre remaniée, ben c'est un peu la même chose et on en parle plus ou moins que René Angélil était beaucoup plus vieux que Céline.
Ouais.
Mais est-ce que tu peux détester les œuvres de René de son époque? Je sais pas, c'est un peu intense.
Ouais.
Mais je veux pas.
Mais la notion de modèle revient beaucoup dans notre conversation. Ouais. Je te sens beaucoup pas un modèle. Il y a pas de. T'as-tu des modèles, toi?
Étrangement, les modèles que j'ai aujourd'hui, c'est des modèles de gens qui m'apprennent des choses. Fait que c'est pas nécessairement des gens connus. C'est plus des gens qui ont pris le temps d'analyser des situations puis qui nous les présentent en disant « Avez-vous remarqué les personnages d'hommes toxiques dans les séries télé de nos années 2000? » Puis tu fais « Ben non, c'était tous des bons gars, ça. » Là, tu regardes, tu sais, « Ah ouais, c'est vrai. » Tu sais, il agaçait la fille au point qu'elle dise oui, finalement, tu sais. « Oh, I met your mother. » Tu sais, comment j'ai rencontré ta mère.
Série,
puis
ouais.
Tu dis, « Mais c'est drôle, c'est un bon gars, ce gars-là, tu sais. » Toute son histoire. Puis là, finalement, tu sais, « Ben non. » C'est quelqu'un qui fantasmait tellement que... Il a poussé à bout la fille à l'aimer, tu sais. Fait que c'est pas sain du tout. Mais comme spectateur, puis comme gars, tu dis, ben c'est ça. Un moment donné, il va l'appeler 10 fois. Elle va me rappeler.
Ouais.
Mais finalement, tu dis, ben non, ça, c'est de l'harcèlement.
C'est sûr qu'après 10 fois, là, on se pose pas la question, hein, Colin.
Mais c'est ça. Des fois, c'est ces gens-là, mes modèles, c'est ceux qui vont analyser des situations qui vont tout changer ma jeunesse ou ma façon de penser.
Okay.
Parce que tu dis, j'avais pas vu ça comme ça.
Okay.
Pour moi, ça, c'est des modèles parce qu'ils m'emmènent ailleurs. Ils m'en remettent en question. Puis ça, c'est merveilleux parce que tu évolues. Tu dis, je vais le réécouter, puis je vais le voir d'une autre façon, puis je vais apprendre.
Ben, c'est super, Steve. On arrive, Stevie, on arrive à la fin de l'émission, justement. On entend la petite musique. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre ou c'est où tu veux que les gens te suivent?
Bien, surtout pas dans la rue, mais...
c'est bon.
Mais sinon, ben, je suis très actif sur TikTok. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que Stevie Turmel, c'est la place.
Stevie Turmel sur TikTok. Alors, ben merci d'avoir été là. Ça a été un grand honneur de t'avoir reçu. Merci encore pour ce que tu m'as apporté. Et je veux dire un petit mot avant que l'émission finisse sur le fait que dans les derniers épisodes, on a reçu Régis Lachance, puis on a fait proche 5 millions de vues avec ça. C'est incroyable. Alors, la porte est ouverte pour des commanditaires. Si vous voulez vous manifester, profitez-en là, avant qu'on soit trop connus. Et... Et puis, on se rejoint la semaine prochaine avec un autre invité croustillant au Delicious Show. Salut, bye bye.